Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 10 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nous parlons ce soir de cancer du col de l'utérus avec le soutien de la Fondation Ford. Trois parties seront développées dans cette émission. Les causes génétiques, l'ignorance, les mutilations sexuelles, les solutions à prévoir aujourd'hui pour ce cas de maladie, les moyens de lutte au Mali. Et pour débattre de cette question, nous avons comme invité Dr Madani Lee, cancérologue, Dr Mariam Diakité, professeur Niani Mukoro, gynéco-obstétricien qui est en cours de route, Madame Santara Djenebou Kamara de l'Association malienne de lutte contre le cancer. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. C'est la deuxième forme la plus fréquente de cancer chez les femmes à l'échelle mondiale après le cancer du sein. Ce cancer est directement en rapport avec l'activité sexuelle. Le dépistage des lésions précancéreuses est possible grâce à la pratique du frottis de dépistage, la découverte des lésions précancéreuses et notamment des dysplasies sévères ou carcinomes in situ permet un traitement assurant une guérison de la patiente avec un très faible taux de récidive. Alors, je m'excuse pour la prononciation. Docteur, quelles sont les causes de cette maladie au Mali? Docteur Madani Lee, vous qui êtes cancérologue.
Merci, M. Sidibé. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de parler du cancer du col. Et je rappelle, comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, que le cancer du col, c'est en réalité le premier cancer dans les pays dits à faible et moyen revenu. Et c'est le deuxième cancer chez la femme dans le monde. Et pour vous donner une idée, quand on prend les services au Mali qui centralisent l'ensemble des cancers pour poser les diagnostics et qui donnent des chiffres qu'on appelle les registres du cancer du Mali, c'est le premier cancer et il représente sur l'ensemble des cancers à peu près 22% de l'ensemble des cancers recensés actuellement au Mali. Dans les services où moi j'exerce, au point G, les services du professeur Dapa Ali Diallo, le service d'hémato-oncologie, dans notre activité, c'est le deuxième cancer après le cancer du sein. Donc après ces rappels, quelles sont les causes du cancer du col? D'abord, je vais essayer de donner une définition même du cancer de façon générale, du col en particulier, si vous le permettez. Alors, les cancers, en réalité, on parle des cancers quand il y a l'unité fonctionnelle de l'organisme, qu'on appelle la cellule, se met à se développer de façon incontrôlée et anarchique et indéfinie dans le temps. Donc, cette cellule qui se développe de façon anarchique va donner une petite tumeur qu'on appelle boule ou nodule et qui a la capacité, surtout dans sa caractéristique, de ne pas rester sur place dans l'organe qu'il est en train de coloniser. Donc, si c'est l'école, cette cellule a la capacité, cette tumeur, de ne pas rester dans l'école, de se détacher et diffuser dans l'organisme et d'aller coloniser d'autres parties de l'organisme. Et ça peut être, excusez-moi, le foie, le poumon, les os. Donc, c'est ça la caractéristique du cancer. Et vous avez dit quelque chose de très important. Parmi les causes qu'on va citer, ce cancer peut être, dans certaines situations, évité. Et surtout, on peut dépister ou diagnostiquer tôt. Et c'est ce qui donne la chance de guérison aux femmes. Maintenant, particulièrement, quand on prend les cancers du col, les causes, il y a un virus qui est clairement démontré actuellement, qu'on connaît très bien, qu'on appelle le virus, le papillomavirus. Et il y a plusieurs sous-types de ce virus. On va dire, entre guillemets, les plus fréquents et les plus agressifs qui peuvent entraîner le cancer du col sont ce qu'on appelle les types 16, HPV-16 et les HPV-18. Et il y a d'autres sous-types, mais c'est les plus fréquents qu'on retrouve au Mali et partout dans les pays à faible et moyen revenu.
D'accord.
Alors,
Je voudrais juste demander à madame de réagir comme elle est là avec nous. Nous sommes trois dans le débat et nous allons permettre à la seule dame autour de cette table de réagir par rapport à cette première phase du débat. Alors, madame, parmi les causes citées, nous avons les mutilations sexuelles aujourd'hui qui sont parmi les causes de cette maladie, le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que on peut faire en sorte que cette maladie puisse être évitée s'il faut, par exemple, supprimer les mutilations?
Mais moi, je ne vois pas le rôle des mutilations sexuelles dans ce truc-là. Hein. Mmh. On vous a expliqué, mon collègue vous a dit que c'est dû à un virus. Mmh. On sait que si on dépiste chez une femme un papillomavirus au niveau du col, cette femme est susceptible de développer un cancer 10 ans après. Donc, je ne vois pas tellement le rapport entre le papillomavirus et les mutilations génitales. Et pour moi, il n'y a aucun rapport. Le papillomavirus.
Est-ce que parmi les causes, il y a des facteurs sociaux, par exemple, docteur Lee?
Alors, là, vous posez une question très pertinente. Je suis d'accord avec le docteur Diakité, qui est gynécologue, qui a bien répondu à la question par rapport à la mutilation génétique et cancer du col. Alors, les cancers du col, les études épidémiologiques dans notre jargon ont démontré qu'il y a une seule personne qui ne fait pas de cancer du col, qui est démontré historiquement. Vous m'excusez de parler comme ça, c'est les femmes qui n'ont pas eu d'activité sexuelle, des rapports sexuels. Ça a été démontré dans les plus grandes séries mondiales que les sœurs qui ne faisaient pas d'activité sexuelle n'ont pas presque jamais de cancer du col. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alors que c'est une maladie qui est liée à l'activité sexuelle et qui ne veut pas dire, ça j'insiste là-dessus, que les femmes, nos sœurs, nos mamans ont un mauvais comportement. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virus dont on vient de parler, HPV, se transmet par l'activité sexuelle normale avec quand les femmes ont l'activité sexuelle. En revanche, ce qui est important, ce virus, une fois qu'on l'attrape, une jeune femme l'attrape, il n'y a aucun signe pour dire qu'on a mal ou bien il y a ceci, il y a cela. Et le virus peut continuer à se développer sur le col. Et comme l'a dit le docteur Diakité, pendant des années, ça va donner des lésions précancéreuses et après un cancer. Donc ça veut dire qu'on peut lutter efficacement contre ce virus. Et surtout, actuellement, on a un vaccin qui est disponible. Maintenant, les niveaux socio-économiques, oui, peut jouer. Maintenant, actuellement, on pense de plus en plus que le cancer du col, c'est une maladie de la pauvreté. Pourquoi? Parce que les femmes qui n'ont pas accès aux soins de santé, comme l'a dit le docteur Diakité, ne peuvent pas aller faire une consultation annuelle chez le gynécologue pour voir leur col et pour voir s'il y a des signes qui disent qu'il y a le virus, sur la présence du virus au niveau de leur col de l'utérus, et qu'on peut traiter et guérir. Donc je pense qu'on va développer ça dans les débats. Et ensuite, il y a d'autres virus qui peuvent être ce qu'on appelle des cofacteurs, notamment le même virus que tout le monde connaît, qui est le virus, le VIH, le virus du sida. Et il y a encore les maladies sexuellement transmissibles qui ne favorisent pas la situation, qui peuvent être des cofacteurs, surtout en plus du virus papillomavirus.
Okay. Alors au Mali, la moyenne est aujourd'hui de 20 000 femmes sur 100 000, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. 20% des femmes sont concernées par le cancer du col de l'utérus. Comment les malades sont-elles prises en charge au Mali? Professeur Niani Mukuro, vous êtes gynéco-obstétricien et vous venez de faire votre entrée dans ce studio.
Merci bien. Je suis peut-être désavantagé parce que je n'ai pas écouté les précédents débats.
Exactement. Bon, c'est pour ça que je vous donne une question taillée à votre mesure.
Voilà, qu'à cela ne tienne la prise en charge, comme vous le savez, il y a la prise en charge qui est la même dans tous les pays et il y a la prise en charge qui est à la disposition des pays en développement. Je viens d'écouter ce que le docteur Lee a dit. Une fois que le diagnostic est fait, lorsque c'est une maladie débutante, tout début de la maladie, donc un cancer micro-invasif, eh bien, c'est la chirurgie que nous avons à notre disposition. Et cette chirurgie, au stade de début, permet de guérir la maladie à 100%, je vous assure. Pour peu que la maladie soit évoluée, une maladie invasive, et supposons le stade 1, la tumeur est uniquement limitée au col. La chirurgie est efficace, mais elle seule n'est plus rien. Après la chirurgie, eh bien, il faut que la patiente soit adressée, eh bien, en radiothérapie si les ganglions étaient envahis. Et aussi, il faut avoir l'avis, eh bien, du chimiothérapeute. Mais savoir que la sensibilité de la tumeur du col à la chimiothérapie n'est pas aussi efficace que ça. Donc, c'est à la radio et à la chirurgie que nous nous adressons. La radiothérapie. Lorsque la tumeur est encore plus développée que le stade 1, c'est-à-dire la tumeur a envahi non seulement le col, mais en surface, c'est descendu sur le vagin. En profondeur, ça a infiltré les autres tissus de voisinage. Eh bien là, la chirurgie n'est pas opérante. Il faut aller à la radiothérapie. Pour ceux qui sont audacieux, après la radiothérapie, ils essayent encore de faire la chirurgie pour extirper la tumeur.
Alors ça, c'est pour la prise en charge et éventuellement le traitement. On sait que le plus difficile aujourd'hui n'est pas que l'on se trouve dans la capitale ou bien en campagne, mais la difficulté réside toujours au sein de la population rurale. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés vos sœurs des zones rurales pour venir se soigner en ville, par exemple dans le cadre de la détection et le dépistage du cancer du col de l'utérus? Est-ce que la population rurale est beaucoup plus victime que la population urbaine?
Certainement, parce que vous savez que le cancer du col, le plus important, c'est la prévention. Ce qui peut sauver la femme, c'est la prévention. Et cette prévention, c'est des examens périodique du col, et grâce à ces examens périodiques, par exemple, si on découvre un papillomavirus, on prend en charge, ça peut être guéri. Les stades précancéreux, on peut y remédier, mais une fois que ça donne des symptômes, c'est très difficile, même dans les pays développés, parce qu'au moment où le cancer du col donne des signes, c'est déjà trop tard. Et le problème, justement, c'est ça chez les femmes rurales. Elles n'ont pas accès à cette prévention. Donc très souvent, elles ne se manifestent que quand elles commencent à avoir des symptômes comme des saignements ou des leucorrhées malodorantes. À ce moment-là, elles se montrent et c'est déjà trop tard. Et même en Europe, pour ces femmes-là, on ne peut pas grand-chose. Et elles sont beaucoup plus vulnérables à ce moment-là. Parce que celles qui sont dans les villes ont accès aux soins, à la prévention. On leur dit, venez voir un gynéco tous les 6 mois, on vous examine le col, on fait ceci, cela. Mais la femme rurale, elle n'a pas cette chance-là.
Est-ce qu'il existe au Mali des structures de prise en charge, comme par exemple celle dédiée aux femmes fistuleuses dans ce cadre-là? Je voudrais juste que madame réagisse par rapport à cette question.
Dans la prévention, tous les centres de référence au Mali sont censés pouvoir faire la prévention dans les CESCOM. Dans les CESCOM, on le fait. Dans les centres de référence, on le fait. Mais ça, malheureusement, c'est surtout dans les CESCOM de Bamako et les centres de référence de Bamako. Je crois que les CESCOM de la périphérie n'ont pas beaucoup de chance. Hein, parce que très souvent, il n'y a même pas de gynéco au niveau des CESCOM.
D'accord. Bon, je pense. Alors, que... oui, nous allons donner la parole à Dr. Lee. Dr. Lee, vous vouliez réagir par rapport à cette question. Allez-y.
Alors, en fait, de plus en plus, on pense que le cancer du col, c'est une maladie de la pauvreté. Mmh. Et docteur Diakité l'a bien dit. Et pourquoi? Et de l'ignorance, surtout. Mmh. Comme elle l'a dit, toute femme qui a accès à un gynécologue, une seule visite annuelle, tu viens de te sauver la vie. Pourquoi? Parce que toutes les femmes, comme je viens d'expliquer, le cancer du col est lié essentiellement à un virus qui est lié à l'activité sexuelle. Et ça, c'est physiologique. Et tout le monde se marie au Mali, comme partout dans le monde. Donc, c'est normal que les gens pensent à se faire examiner par un gynécologue et d'avoir un gynécologue. Donc, bien sûr, les femmes rurales qui n'ont pas accès aux gynécologues sont vraiment défavorisées par rapport aux femmes qui vivent dans les villes.
Restez là-dessus, nous allons observer une courte pause et nous allons vous donner la parole pour poursuivre ces explications.
D'accord.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Cette émission est écoutée partout au Mali grâce à nos 20 stations radio partenaires. L'émission d'aujourd'hui porte sur le cancer du col de l'utérus au Mali. Cette deuxième partie est consacrée aux solutions, à la prévention et au dépistage que l'on peut faire de cette maladie ici au Mali. Alors nos invités, Dr Madani Li, oncologue, Dr Mariam Diakité, professeur Niani Mukoro, gynéco-obstétricien. Alors nous sommes donc à la deuxième partie donc, de ce débat qui parle de la prévention. Alors, juste avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons permettre à Dr Li de développer ses explications par rapport aux difficultés que les femmes rurales ont aujourd'hui à se faire ausculter de cette maladie. Docteur, allez-y.
Donc, je disais que le cancer du col est considéré aujourd'hui comme une maladie et de la pauvreté et surtout de l'ignorance. Et je venais de le dire, c'est une maladie qui est liée à un virus. Un, qu'on peut prévenir. Et deuxièmement, si on a contacté le virus, et les lésions que le virus est en train de produire, on peut les stopper, les traiter et guérir ces lésions pour qu'ils ne volent pas vers le cancer. En revanche, moi, en tant qu'oncologue, moi, je n'ai pas la même vision que le docteur Diakité dans la prise en charge. Actuellement, dans les pays développés, presque personne ne meurt de cancer du col, sauf les gens qui refusent d'aller à l'hôpital. Dans tous les pays, il y a des brebis perdues. Mmh. Donc, ce n'est plus, on va dire, un véritable problème des décès dans les pays développés. Parce que tout le monde, le docteur Diakité certainement le confirmera, dans les pays développés, si on prend l'exemple de la France, ont accès, toutes les femmes ont accès à un gynécologue. Et on fait très bien chez ces gens ce qu'on appelle le dépistage et la prévention, qui fait que le maximum de patients, ceux qui ont un cancer, parce que c'est découvert très tôt. Et ils guérissent presque tous. Maintenant, si la maladie, comme l'a dit le docteur Diakité et le professeur Niani, la maladie est évoluée, le traitement devient difficile. Et un seul médecin, un seul spécialiste ne peut pas faire une prise en charge correcte d'un cancer aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gynécologue, qui est le chirurgien par excellence dans cette maladie, va participer à une réunion disciplinaire, pluridisciplinaire avec le dossier du patient. Il y a le radiothérapeute qui a une place capitale, surtout chez nous actuellement. Il y a le chimiothérapeute ou cancérologue et il y a ce qu'on appelle l'anatomopathologiste, celui-même qui permet de dire qu'il y a un cancer. Pas d'anapathe, pas de cancer. Parce que quand les gynécologues voient une lésion, on fait un prélèvement, on envoie un laboratoire, il y a un spécialiste qu'on appelle un anatomopathologiste qui permet de faire le diagnostic. Une fois que ça c'est fait, donc tout le monde se réunit autour du dossier. Le professeur Yanni l'a déjà dit. Et on fait ce qu'on appelle dans notre jargon une stadification. Et cela est très bien codé. Et en ce moment, on donne une stratégie thérapeutique qui sera la meilleure, qui va donner cette stratégie la chance d'aller vers la guérison. C'est vrai, quand la maladie est évoluée, j'ai donné dans la définition du cancer, quelqu'un qui a un cancer qui a la particularité de se déplacer dans l'organisme, qui a des métastases hépatiques ou pulmonaires, lui, il a toutes les malchances de décéder de son cancer. Et notre traitement consiste à l'améliorer considérablement et pas par des traitements très lourds. Donc ça, c'est important, c'est vrai. Donc, le message fort que moi, je vais lancer par rapport à ça, que toutes les femmes aillent se faire dépister et que toutes les femmes aillent voir un gynécologue au moins une fois par an.
Une fois par an.
Et elles sauvent leur vie elles-mêmes.
D'accord. Alors, professeur, peut-on déceler aujourd'hui des tares dans le système sanitaire qui, et corriger cela pour que les femmes puissent prévenir ce cancer? Professeur Niani Mukuru.
Bon, oui, monsieur. Les tares du système sanitaire, c'est peut-être... j'aime souvent faire une parabole. Si vous êtes le fils d'un pauvre, il ne faut pas trop tendre la main. Et là où tend la main le fils du riche, donc il nous faut d'abord connaître nos moyens et connaître nos limites. Les tares que nous avons, peut-être c'est le manque de moyens. Moyens pour faire face à cette maladie qui est une maladie très grave et qui demande beaucoup de ressources pour la vaincre.
Alors aujourd'hui, est-ce que les femmes ont les moyens de consulter? Les femmes de quelque bord que ce soit au Mali ont les moyens aujourd'hui de faire une consultation au moins une fois par an et au sein des CESCOM? L'État peut-il organiser cela?
Je pense que l'État peut tout faire. Il s'agit tout simplement d'une assistance. Il faut les assister. C'est pour cela que je parlais ainsi. Il faut une bonne assistance. Même dans les pays développés, ce n'est pas le portefeuille de la malade qui a permis que la maladie soit vaincue. C'est la solidarité. Donc, si cette solidarité existe, il faut bien aller. Et le docteur Lee le disait, il parlait de la multidisciplinarité de la prise en charge. Moi, je parlerai plutôt de la multisectorialité de la prise en charge. Il faut que les communautés soient suffisamment éduquées, instruites pour savoir ce que c'est que le cancer. Je crois que tout le monde aime la vie. Personne ne souhaite mourir, en tout cas à un âge jeune, comme le cancer foudroie. Une fois qu'elles sont suffisamment informées, elles vont se faire dépister.
Alors, y a-t-il un âge aujourd'hui favorable à ce virus?
Ben oui.
Quel âge, par exemple?
Alors, l'âge favorable, c'est surtout le jeune âge. Et c'est pour cela que je n'ai pas assisté au tout début. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé?
Non, on n'a pas encore abordé cette question.
Voilà. Il faut le jeune âge parce que c'est au jeune âge que les cellules sont les plus réceptives au virus. Et lorsque ces virus pénètrent dans les cellules jeunes, elles ont beaucoup de chance. Ils ont beaucoup de chance de laisser les cicatrices, les lésions. Et c'est sur fond de ces lésions que le cancer va se développer au bout de 15-20 ans. Donc, je parlais de l'ignorance des communautés. Ensuite, il nous faut, nous, personnel, il faut que nous soyons suffisamment informés pour pouvoir sensibiliser. Si nous avons vraiment le verbe suffisant, on peut sensibiliser, on peut convaincre.
Alors, madame, docteur Mariam Diakité, comment est-ce qu'il faut aujourd'hui prévenir cette maladie avec vos sœurs? Quelle est la meilleure approche?
La meilleure approche, comme il l'a dit, c'est sensibiliser les populations. Et dans ce cadre-là, je voudrais signaler que chaque année, depuis 3 ou 4 ans, la Société malienne de gynéco-obstétrique organise une journée. Et là, cette année, c'était samedi dernier. Et on essaye d'informer, de sensibiliser, d'apprendre aux femmes même l'autopalpation du sein, on a essayé de leur apprendre ça cette année. Et c'était
je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente de cette.
Voilà, j'ai été présidente de la société pendant 8 ans. Mmh. Et maintenant, ma collègue, professeure Si, qui n'a pas été disponible aujourd'hui, est la présidente actuelle. Et on a organisé cette année encore cette journée de dépistage dans tous les CESCOM et dans tous les hôpitaux de Bamako et à l'extérieur aussi parfois. On prend une ville dans la région ou deux villes dans la région selon les possibilités pour sensibiliser les gens. Moi je crois que chaque gynéco et si possible même chaque médecin généraliste peut apprendre à une femme à palper son sein par exemple pour le cancer du sein, peut faire comprendre à la femme qu'à partir d'un certain âge, à partir où on a une activité sexuelle, il faut venir consulter au moins une fois. Moi, je dis tous les 6 mois. Tous les 6 mois, et on met un spéculum, on regarde le col, et en fonction de ce qu'on voit, il y a d'autres examens qui peuvent permettre de nous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, et de faire suivre, de diriger éventuellement la femme vers l'anatomopathologiste, etc. Mmh. Donc le plus important, c'est l'information, la sensibilisation, et c'est nous qui pouvons le faire, nous médecins, dans les centres. Chaque fois qu'on a affaire à une femme, il ne faut pas se contenter de l'examiner sur le plan général, il faut en profiter pour lui dire, ah, est-ce que vous avez fait cet examen. Moi, je connais un généraliste qui, chaque fois qu'une femme va le consulter pour un problème quelconque, il lui demande, ah, depuis quand vous n'avez pas vu un gynéco, allez voir un gynéco, il lui fait tout de suite une fiche. Ça, c'est important. Si tous les médecins faisaient ça, je crois qu'on gagnerait beaucoup là-dessus.
Alors, Madame Diakité, je reste avec vous, docteur Diakité. À partir du moment où le sexe est un sujet tabou au Mali, comment voyez-vous le rôle des parents dans cette lutte à partir du moment où les jeunes filles sont susceptibles d'attraper cette maladie depuis le bas âge?
Ben, malheureusement, le problème au Mali, c'est que c'est un sujet tabou. Les parents sont fermés, ils ne veulent pas. Hein? Très souvent, moi, quand j'aborde les jeunes filles, je leur dis, bon, si tu ne peux pas parler à ta maman, viens me parler, moi. Moi, je peux t'expliquer, je peux te diriger. Mais malheureusement, les parents, 9 fois sur 10, sont fermés.
Même les mamans.
Mais même les mamans, souvent, elles sont fermées, elles ne veulent pas en parler. Bon, peut-être que dans notre génération à nous, maintenant, ça va un peu mieux. Nous sommes plus abordables. Et la génération qui nous suit est encore un peu plus abordable. Et je pense qu'il y a une évolution dans ce domaine-là par rapport à.
Docteur Lee, est-ce que vous partagez cet avis?
Absolument. Absolument. Ce n'est pas facile de parler de sexe dans les familles avec les jeunes filles. Donc maintenant, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens pour le bien-être même de ces jeunes femmes. Alors, moi, j'aimerais dire que le plus jeune cancer du col que nous avons pris en charge dans les services, c'est 22 ans.
22 ans.
Donc, malheureusement, donc, c'est une maladie qui atteint, comme l'a dit le professeur Yanni, les femmes jeunes. Donc, c'est pour vous dire que c'est atteint le sujet jeune.
Alors, et à partir du moment où la chimio n'a pas tellement d'influence pour la guérison de cette maladie, est-elle nécessaire?
Alors, moi, je nuancerais. Il y a des authentiques cancers du col qui ont été guéris avec la radiothérapie combinée avec la chimiothérapie. Donc nous, on appelle ça dans notre jargon radio-chimiothérapie concomitante, ensemble. Donc la chimio a sa place. La chimio a vraiment sa place.
Et à partir du moment où c'est vraiment avancé, peut-on guérir
Alors, des principes des cancers du col, et comme tous les cancers, quand c'est avancé, les chances de guérison sont limitées. Mais la science évoluant, nous, les oncologues, nous avons toujours la sagesse de dire que les chiffres sont les chiffres et chaque cas est un cas. On s'adapte les jours à ce qui se passe. Et surtout, il y a toujours l'avancée des nouveaux médicaments qui sortent. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc on ne peut pas dire que, de façon générale, quand c'est clair et net, comme dans tous les cancers, même pas le col, une fois que la maladie a atteint un certain stade, la majorité des patients décèdent malheureusement. Donc, agissons de telle manière qu'on n'arrive pas à ce stade, comme l'a dit le professeur, le docteur Diakité. Il ne faut pas arriver à ce stade. D'accord. Et moi, je dirais, la lutte contre les cancers, au Mali du col et en particulier contre les cancers, passera par 3 choses. La première chose, on est en train de le faire cet après-midi, la sensibilisation. Et là, vous avez un rôle important et capital, vous les médias, qui au Mali aujourd'hui n'écoutent pas la radio, la FM, et ou qui ne regardent pas la télé, ça n'existe pas. Quand on prend la population du Mali, soit chacun a une radio sur son téléphone, surtout les jeunes femmes, c'est un phénomène de mode. Donc profitons de ces créneaux pour faire sensibiliser les gens. Et tout le monde regarde la télé, dans les villes quand même, dans les grandes villes du Mali. Profitons aussi de ces créneaux pour faire passer les messages.
La télé est plus chère, mais la radio est,
est moins chère.
Le plateau est gratuit. Nous allons en pause, quelques secondes, avant de poursuivre.
Ouais.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Sachez que cette émission est également écoutée partout dans le monde et en direct grâce à notre site web www.studiotamani.org en un seul mot. Et n'oubliez surtout pas de jeter un œil sur notre page Facebook sur laquelle le débat continue. Nous parlons ce soir dans le grand dialogue du cancer du col de l'utérus. Dans cette troisième partie, nous tenterons de comprendre les moyens de lutte contre ce mal au Mali. Pour l'occasion, nous avons comme invité Dr Madani Lee, oncologue, Dr Mariam Diakité, professeur Niani Mukoro, gynéco-obstétricien. Alors, juste avant d'entamer cette troisième partie, nous allons toujours laisser le docteur Lee poursuivre ses explications par rapport aux moyens de prévention. Docteur, allez-y.
Alors, deuxièmement, c'est la formation. On ne cesserait de le dire, et le docteur Diakité l'a dit, il faudrait que nous mettions, ça commence déjà, le premier contact avec les médecins, que nos médecins généralistes soient formés et sensibiliser, ça c'est le rôle de l'État, des autorités sanitaires, ça il faut être clair là-dessus, sur la nécessité que tout le monde, tous les médecins, tous les agents de santé aient les réflexes. Premier contact avec toute femme, est-ce que vous avez vu un gynécologue? Vous n'avez pas vu un gynécologue, voilà l'adresse de tel ou tel gynécologue. Vous avez même le choix d'aller voir un tel pour qu'on fasse votre examen annuel. Donc ça c'est le rôle des autorités sanitaires. Parce que je rappelle, moi qui suis devant vous, quand j'ai fait mon école de médecine, j'ai fini en 2001, tout près. Je n'ai pas été très bien sensibilisé sur la prise en charge du cancer du col. Alors que j'ai été formé au Mali. Donc, il faut savoir faire l'autocritique et de son système de santé. Donc, ça, c'est le rôle des autorités. Deuxièmement, formation, il faut former les spécialistes. Je suis désolé de le dire, et tous les médecins ne peuvent pas prendre en charge le cancer correctement. Il faut des gens qui ont appris. Et surtout, il y a une notion qui est reconnue partout dans le monde actuellement, dont souffrent les pays à moyens et faibles revenus. C'est qu'une fois qu'on pose le diagnostic de ton cancer, il faut que les professionnels le prennent en charge. Une fois qu'au début est raté, le patient perd une chance de guérison. Et surtout, au début, le cancer du col, comme tout cancer, ça guérit presque dans 100% des cas. Ça, c'est très important. C'est malheureux pour une jeune dame d'aller se faire déficiter chez les gynécologues. Et on lui dit qu'il a un cancer au début et qu'on ne parvient pas à le guérir. Ça, c'est dramatique.
Alors, juste une parenthèse, est-ce que ce cancer-là peut provoquer d'autres symptômes chez l'homme en cas de rapport
ben,
avec une personne atteinte.
Théoriquement, non.
Non. Aucun cas de maladie.
Non.
D'accord. Alors, nous allons nous diriger vers le professeur Niani Mukoro. Vous êtes gynéco-obstétricien. Le Mali peut-il couvrir tous les besoins et les urgences de sang en matière de santé publique et comme notamment dans ce cas?
Je pense que ce n'est pas un objectif au-dessus des possibilités de l'État. Les besoins, c'est d'abord des besoins de sensibilisation. Après la sensibilisation, il faut le dépistage. Et je pense que c'est débattu en long et en large par ma grande sœur, le docteur Mariam Diakité. Il y a un moyen efficace pour détecter les lésions précancéreuses et cancéreuses qui est moins cher, qui est accessible à tous. Je pense qu'on l'a déjà débattu sur ce plateau. Accessible un peu partout, moindre coût, résultat immédiat. C'est l'inspection visuelle à l'acide acétique, inspection visuelle au ligol, et cela est pratiqué un peu partout. Eh bien, l'autre moyen qui est au-dessus de nos possibilités, et peut-être la solidarité internationale va agir, c'est la vaccination.
Alors, à partir de quel âge cette vaccination doit avoir lieu?
Cette vaccination, elle a lieu avant les premiers rapports sexuels. Avant, on disait 11 ans. Aujourd'hui, on est en train de descendre vers l'âge préscolaire, 8-9 ans. Et avec le développement des vaccins, on est en train de se rendre compte que même à 23 ans, en tout cas la première année des rapports sexuels, si une jeune fille est dans la première année de ses rapports sexuels, on tente de rattraper.
Donc à partir du moment où la pratique sexuelle est déjà entamée, il n'y a pas forcément d'efficacité pour le vaccin.
Puisque le vaccin, c'est une prévention primaire. C'est pour éviter que la maladie n'apparaisse. Lorsque l'organisme est déjà en contact avec le virus, les lésions sont déjà enclenchées. Et c'est sur fond de ces lésions que le cancer peut se développer. L'idéal, c'est agir avant que ce processus n'ait lieu.
D'accord. Alors, madame, juste avant de vous donner la parole, docteur Lee, je vais demander à madame, à docteur Mariam Diakité de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent faire en sorte que les jeunes filles soient vaccinées dès le bas âge pour éviter le cancer de col de l'utérus?
Il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent...
Est-ce que ça coûte cher d'abord,
le vaccin? Voilà, c'est ça le problème. Le vaccin coûte énormément cher.
Ça fait combien en moyenne?
Au Mali, je ne sais pas, même en euros, c'est au moins 150 euros, non?
Hein? 150 euros.
Ça fait 100 000 francs, ou bien?
Professeur?
Il y a le Gardasil. Le Gardasil.
Il y a deux vaccins.
Le Gardasil, lui, il fait 135,50 euros.
Euros, voilà.
Mais il couvre 4 type de virus. Il y a le Cervarix qui couvre 2 types de virus et lui, il est autour de 111 euros.
Voilà. Grosso modo, ça fait autour de 100 000 francs CFA.
100 000 francs CFA.
Et c'est pas à la portée de tout le monde, ça. C'est le gros problème. Et il faut que ce soit fait avant le premier rapport sexuel.
Avant le premier?
Le premier rapport sexuel. Parce que si elle a un rapport sexuel, elle est déjà exposée. Et malheureusement, vous savez, il y a des ethnies qui se marient à 12-13 ans.
Comme le Saracolé.
Et les peules. Moi, je suis peule.
Alors, par rapport au vaccin, comme mes précédents l'ont dit, l'idéal, c'est de faire le vaccin avant le premier rapport sexuel. C'est pour ça que certains pays ont vacciné à 12 ans, 13 ans. Maintenant, l'âge est revenu à 8-9 ans à peu près, selon la majorité des pays. Mais c'est important de rappeler quand même que historiquement, pour la première fois, qu'un vaccin a un effet thérapeutique, c'est ce vaccin-là. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quand on faisait les études pour mettre le vaccin sur le marché, il y avait des gens qui avaient déjà des lésions et qui ont régressé sur ce vaccin. Donc moi, à mon avis, vu les problèmes d'accès, quand on me demandera, vu les problèmes d'accès aux gynécologues, il n'y en a pas suffisamment, tout. L'idéal au Mali, si on peut avoir ces vaccins à grande échelle, il faut vacciner tout le monde. Vraiment, il faut vacciner tout le monde.
Est-ce qu'il existe
toutes
des
les jeunes femmes, toutes les femmes, oui.
Il existe des dérivés?
Des dérivés, c'est-à-dire
De vaccins? Est-ce que il existe d'autres types de vaccins moins coûteux?
Malheureusement, non. Non, il y a que ces dés qui sont maintenant sur le plan mondial. Et ben, c'est pour les laboratoires qui l'ont fait. Hein. Ils ont ce qu'on appelle les brevets.
Alors, à partir du moment où la chimio est gratuite, peut-on rendre un jour ces vaccins gratuits au Mali?
À mon avis, oui. C'est une question de volonté politique et de ce que je veux. Si nous voulons que dans 10 ans, dans 20 ans, les cancers du col, qu'on n'en parle plus, il faut vacciner dès maintenant toutes les femmes.
Alors, quelle est la meilleure méthode adoptée, par exemple, en Occident et qui pourrait éventuellement marcher au Mali?
C'est ce que je vous ai dit. C'est la formation. Formation, sensibilisation des médecins. Former beaucoup de gynécologues et toute la population puisse avoir accès pour qu'ils dépistent chaque année toutes les femmes et toutes les lésions qui seront vues qui ne sont pas un cancer seront traitées et on n'en parle plus. Et en plus, parallèlement, vacciner tout le monde puisqu'il maintenant il y a un vaccin qui existe.
Alors, docteur, quel est votre cri de cœur aujourd'hui pour que, professeur Gnani Mokoro, quel est votre cri de cœur pour que voilà, cette difficulté soit derrière, loin derrière nous? Un cri de cœur peut-être aux autorités et aux partenaires.
Cri de cœur, oui. Mon cri de cœur, c'est qu'il faut bien que nous soyons convaincus nous-mêmes. Il faut que nous soyons convaincus pour pouvoir convaincre les autres.
Nous le sommes.
Ensuite, eh bien, sachant que nous avons des ressources limitées, qu'on ne laisse pas de place à l'absence de dépistage. Je l'ai dit tantôt que le moyen efficace pour nous, pays en développement, c'est l'IVA, l'IVL, qui est efficace et qui a montré ses preuves. Si toutes les femmes font cet examen simple, très peu coûteux, eh bien, je suis sûr qu'on va réduire l'incidence du cancer du col. Autre cri du cœur, c'est il ne faudrait pas se leurrer. La vaccination pour nous, ce n'est pas pour tout de suite. Faire appel à la solidarité internationale, ne serait-ce que pour vacciner une tranche d'âge. Des jeunes filles, peut-être en âge préscolaire. Alors, ça, c'est supportable.
Cri de cœur du médecin et en même temps du père de famille. Mmh. Alors, docteur Lee, avant juste de donner la parole à madame pour conclure ce débat, je vous donne la parole pour votre cri de cœur et éventuellement le message que vous voudriez faire passer.
Alors, le message que moi je veux faire passer, c'est bien de sensibiliser les gens, les populations, pour se faire dépister. Il faut des structures adaptées pour la prise en charge. Et dans ces cadres, comme la chimiothérapie est gratuite, le gouvernement a créé un centre de radiothérapie. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce centre n'est pas autonome. Donc, dans sa conception, donc si j'ai un appel à lancer, il faut que ce centre soit autonome, doté de moyens et de personnel pour que ça puisse répondre à un vrai centre de cancérologie comme partout dans le monde.
Quand vous dites autonome, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, il y a un centre qui est créé maintenant qu'on est en train d'attacher à l'hôpital du Mali, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est pour moi celui qui l'a dit, hein. C'est tous les experts
donc
partout dans le monde.
Une structure autonome,
une structure autonome où on ne prendra qu'en charge que les cancers. Et ça va faire développer les choses et le Mali va rayonner sur le plan international à travers ces centres dans la prise en charge du cancer.
Merci docteur Lee. Madame, docteur Mariam Diakité. Cri de cœur de la maman et du docteur.
Bon, comme je vous l'ai dit, moi, à partir du moment où le cancer va donner signe, saignement par exemple, c'est déjà trop tard. Contrairement à ce que Lee dit, même dans les pays développés, un cancer du col qui a déjà donné des signes, rien ne te prouve qu'il n'y a pas de métastase. C'est difficile à gérer. Et au Mali, c'est pratiquement impossible. Donc moi, en tant que mère, je prie et je demande au gouvernement qu'on puisse vacciner nos petites filles. Et celles qui sont en âge de procréer, qui ont une activité sexuelle, je leur demande de venir consulter deux fois par an, minimum une fois par an.
Merci à la maman pour
ce. Et je demande aux généralistes d'inciter les malades, même si elles viennent pour un autre problème, d'aller voir les gynécos. Si on ne leur apprend pas à le faire, ne sont pas censés le savoir.
Merci beaucoup à vous. Merci madame pour ce cri de cœur. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Le débat qui parlait du cancer du col de l'utérus au Mali. Trois volets ont été analysés dans cette émission. Les causes génétiques, les solutions et la prévention, les dépistages et les moyens de lutte au Mali. Nous avions comme invité Dr Madani Li, oncologue, Dr Mariam Diakité et professeur Niani Mokoro, gynéco-obstétricien. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la mise en onde. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halou de Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.